J'ai le nôtre, gibier de bagne, Anthelme Collet. Nombre de vieux proverbes enseignent qu'il ne faut point discuter des goûts de chacun et qu'on doit laisser à tout homme la liberté de suivre sa fantaisie à la condition qu'elle ne soit pas nuisible et ne trouble pas en rien l'ordre établi. C'est la sagesse même. Et on ne peut cependant s'empêcher de remarquer que les goûts de M. Appert étaient singuliers. M. B. Appert vivait à l'époque de la Restauration. C'était un brave et honnête bourgeois, respectueux de toutes les autorités, possédant une fort agréable fortune, et rempli de tous les bons sentiments qui font les citoyens modèles. Mais il avait une marotte. Il ne pouvait entendre parler d'un vol ou d'un assassinat sans être pris immédiatement d'une compassion profonde pour le voleur ou le meurtrier. Son cœur s'attendrissait à la pensée de ce pauvre dévoyé que la misère ou le défaut de bon conseil avait obligé à commettre un crime. Il était sans doute disciple de Rousseau et gardait la conviction que l'homme est né bon et que la société le rend mauvais. Pour s'affirmer dans cette conviction, il commença en 1816 à visiter les prisonniers. Il écoutait leurs doléances, plaignait leurs malheureux sorts et s'indignait avec eux des cruautés de l'aveugle justice. Il ne voyait que des innocents persécutés, des fers inutiles, des rigueurs barbares. Trouvant tant de plaisir à la fréquentation de ce monde interlope, qu'il résolut de lui consacrer sa vie. Il y avait alors à Paris deux maisons de détention réservées aux militaires. L'une était l'abbaye, l'autre la prison de Montaigu, aménagée dans l'ancien collège de ce nom. Appert sollicita du ministre de la Justice l'autorisation d'entreprendre une série de conférences destinées à moraliser et à distraire les pensionnaires de cette seconde geôle. Sans doute était-il fortement recommandé, car le ministre n'osa repousser la retraite. Mais, dans l'espoir de décourager le conférencier, il lui avisa qu'il devait faire son cours à 4 heures du matin, le règlement de Montaigu ne se présentant pas à une combinaison plus arrangeante. Le pauvre philanthrope dut, pour exercer son apostolat, se lever à 2 heures de nuit. Peu ne s'en plaignait pas, étant échauffé par le feu sacré, mais il serait intéressant de connaître quelles étaient les impressions de ses auditeurs, réveillés en plein sommeil, pour entendre discourir sur la morale et le bonheur qu'assure la bonne conduite. Encore que le sujet eût pour eux tout attrait de la nouveauté, on peut supposer que leur attention manquait de continuité et que bien des yeux se fermaient au ronronnement de ces homélies nocturnes. Elles se terminaient généralement par des confidences échangées entre le professeur et ses élèves, et ceci ne manquait pas d'exposer au crédule M. Appert qu'ils étaient toutes les victimes d'épouvantables erreurs judiciaires. Et deux d'entre eux en persuadèrent si aisément qu'il facilita leur évasion, ce qui lui valut d'être arrêté, conduit au dépôt, d'abord, puis à la prison de la Force, où il fut gardé durant 8 mois. Ce fut le plus beau temps de sa vie. Jamais il n'avait conçu le fol espoir d'être emprisonné pour son propre compte. Et ce bonheur lui étant advenu, il mit à profit sa détention pour vivre en intimité avec ses chers criminels, s'instruire de leur argot, s'assimiler leurs habitudes, connaître leur groupement, leur hiérarchie, leur stratagème et leur mentalité. Et de ces divers sujets d'étude, il acquit un redoublement de pitié pour ces malheureux incompris que la cruauté, l'insouciance ou l'égoïsme de la société conduisent au mal et qui s'y complaisent, ne pouvant rompre avec lui. Et dès que son temps finit, Aperbe à s'ouvrir les portes de son cachot, il comprend que jamais il ne pourra vivre ailleurs que dans les prisons. Et le voilà, muni d'une autorisation spéciale, visitant toutes les geôles de Paris, puis de province, toutes, celles du Nord comme celles du Midi, les simples violons de bourgade comme les grandes maisons de détention les plus importantes, chefs-lieux. Et ce n'est pas en curieux qu'il accomplit ce pèlerinage, non point. Il veut partager le repas des prisonniers, causer longtemps avec eux, coucher sur une paille, pénétrer dans une patte chez les plus redoutables, prendre sa bonne part de la crasse et de la vermine pénitentiaire. Il confesse les grands coupables, trouve des excuses à leurs crimes, intercède pour eux, paie la goutte, distribue du tabac et des jeux de cartes, de bons livres aussi, et, sans compter les exhortations à la patience, il est de toutes les fêtes. Quand on ferre les morfas à Bicêtre, il se trouve là, non point parmi les spectateurs, mais dans les rangs des condamnés. Il leur tient les mains, tandis qu'à grands coups de marteau, on rive les carcans et les menottes. Il suit la chaîne sur la route du bagne. Il est un habitier de Rochefort, de Brest, de Toulon, très familier parmi les bonnets rouges ou verts, et se plaisante surtout avec les prisonniers et les pensionnaires du lieu réputé et les plus dangereux et les plus incorrigibles. Il pénètre la nuit, sans garde-chiume, dans le dortoir de ses fauves, s'assied sur leur paillasse, prend sur ses joues le boulet qu'il traîne un beau pied, et cause amicalement avec ses farouches parias. Il se fait dompteur de ces misérables, parvient à les amadouer et parfois à les attendrir. Il le voit arriver avec plaisir. Il ne se méfie pas de lui. N'est-ce point à celui qui s'adresse pour qu'il l'aide à dépister la police, tous ceux qui sont parvenus à rompre leurs bancs et à s'évader du bagne. Il leur procure de faux papiers, les moyens de passer à l'étranger, des subsides, voire des recommandations, parvient à les placer et quelques-uns lui causeront la joie d'être, sous un nom supposé, des hommes très honorables. Un jour, à Brest, il exige des autorités du bagne qu'on lui rive le carcan au cou, les chaînes aux pieds, et à la vue de tous les forçats ébahis, il traîne en souriant son boulet dans la cour de l'établissement. Mais c'est lorsqu'il s'est avisé d'une condamnation à mort qu'il sent se développer toutes ses facultés. Vite, il accourt vers le malheureux qui attend l'échafaud. Il s'enferme seul avec lui, se plaît à rester là de longues heures dans l'intimité du moribond. Et l'assassin le plus fameux est celui qui l'attire le plus. Et une correspondance s'établit entre père et ce misérable. Il en arrive d'être pris en véritable affection par ces désespérés. Ils obtiennent de lui qu'il viendra les voir mourir, qu'il suivra leur corps à l'amphithéâtre ou à la fosse des suppliciés. L'un d'eux, Roch, exigea que le bon monsieur Appert passât dans sa compagnie toute sa dernière journée. On les enferma ensemble, et quand l'heure de l'exécution venue, l'aumônier et le bourreau se présentèrent, le condamné et le philanthrope étaient devenus si bons amis qu'ils en étaient au tutoiement. Ils s'embrassaient encore quand, le malheureux monta dans la charrette. L'existence extraordinaire de cet original bienfaisant et courageux a été contée par lui-même en 4 volumes, publiés vers 1830, sous le titre suffisamment rébarbatif de « Bagne, prison et criminel ». L'ouvrage est illustré de lithographies représentant des têtes de guillotinés fameux, des scènes du bagne et d'un grand nombre d'autographes d'assassins en vue. Je ne connais pas de livre dont la lecture soit plus féconde en cauchemar. Et il fallut que le bon monsieur Dapper eût acquis ses nerfs d'acier pour supporter durant 20 années, les plus belles de sa vie, assure-t-il, la constante promiscuité de tant de criminels et de bourreaux. De bon nombre de ses amis du bagne, il reçut des confidences écrites, dont il nous donne de longs extraits. Et ce n'est point la partie la moins intéressante de cet étonnant recueil. Il y a là de quoi gémir, de quoi frissonner, et de quoi rire aussi. Les mémoires authentiques d'Anthelme Collet, qui connut à l'époque de la Restauration une célébrité presque égale à celle de Cartouche et de Mandrin, forment un spécimen achevé d'une littérature spéciale. C'est l'œuvre d'un inconscient pour qui, on va le voir, les choses les plus sacrées demeurent sans aucun prestige, mais d'un inconscient rigolo, prodigieusement audacieux, madré, ingénieux, ayant sondé la candeur des hommes et des gens et constaté qu'elle est sans fond. En somme, une pittoresque figure de brigand, en comparaison de laquelle pâlissent les plus renommés des aventuriers. Je doute même que les premiers sujets de la troupe de cambrioleurs émérites, dont l'arrivée prochaine nous est annoncée d'Amérique, égale en aplomb et en habileté ce précurseur éblouissant. Il était né à Belley d'une honnête famille d'ouvriers menuisiers. D'abord élève à l'institution des frères, il dut bientôt quitter l'école que la Révolution fermait. On était en 1793 et les communautés religieuses se dispersaient. Anthelme resta donc sans maître et sans direction. Son père s'était engagé dans les armées de la République, et l'enfant fut confié à son aïeul, qui le traita rudement sur les conseils d'un vieux général retraité qui avait les prétentions d'éducateur et préconisait la manière forte. Le jeune Collet conçut une vive rancune contre ce militaire auquel il était redevable de tant de taloches et de pain sec, et il résolut de se venger. Il fit le tour de toutes les pâtisseries de la ville, et dans chacune d'elles, se présentant comme domestique du citoyen général D, il commanda de petits pâtés pour un grand dîner que le dit général allait offrir à ses amis. Puis il se lança dans la campagne, annonçant que Mme D venait de donner le jour à un gros garçon et cherchait une nourriture pour élever son fils. Au jour dit, 20 douzaines de petits pâtés et 68 nourrices arrivaient en même temps chez le général. La ville fut en rumeur devant cette invasion. On s'attroupa, on s'informa, on éclata de rire. Le général, furieux, dut payer les pâtisseries et distribuer aux nourrices qui s'en régalèrent. Et durant plus d'une semaine, toute la région s'esclaffa du bon tour dont on faisait honneur au jeune Colleret, lequel avait pris la précaution de disparaître. Il erra par la province, cherchant à gagner sa vie, sans travailler. Et dès qu'il eut l'âge d'être soldat, à 17 ans, il s'enrôla. Et le voilà incorporé à la 10e 101e brigade en route pour Brescia. Et comme il est intelligent et brave, en 2 ans, il conquiert ses grades. Sous-lieutenant en garnison à Naples, il est blessé dans une escarmouche, porté à l'hôpital où sa bonne mine et sa jeunesse lui attirent d'instinct l'intérêt d'un candide ecclésiastique auquel il se confie. Il est, dit-il, issu d'une noble famille de France. Son père, le marquis de Collet, l'a chassé du logis familial pour quelques bégadus sans gravité. Le charitable prêtre entreprend de rendre à ce gentilhomme trop sévère son fils repentant. Il adresse au marquis de Collet une lettre émouvante quand Thelme se charge de remettre à la poste. Quelques semaines plus tard, parvient la réponse. Une telle belle missive, fermée d'un cachet armorié, Collet s'est appliqué à étudier l'art délicat et utile de la gravure sur métaux. Le naïf abbé rompt en tremblant ce cachet. La lettre est signée du marquis de Collet, commandeur de plusieurs ordres. Oh, joie! Le père irrité s'est laissé attendrir. Il pardonne, recommande au bon prêtre de veiller sur Anthelme, l'assurant d'avance de toute sa reconnaissance. Il insinue que tous ses vœux seraient comblés si son fils entrait dans les ordres, certain que, grâce à son nom et à la brillante éducation qu'il lui avait fait donner, le jeune homme parviendrait rapidement aux plus hautes dignités de l'Église. Voici donc Anthelme au séminaire. Bientôt clerc, puis sous-diacre, il édifie la Sainte Maison par sa docilité et sa piété ardente. Le royaume de Naples était alors gouverné par le roi Joseph, frère de l'empereur Napoléon. Le nouveau souverain recrutait sa cour et son armée. Et un beau jour, on apprend au séminaire que Sa Majesté a daigné jeter les yeux sur le chevalier de Collet et qui lui offre une lieutenance dans les troupes de garde, sa garde. Comment refuser une telle faveur? Le jeune diacre troque aussitôt le froc pour l'épée et il n'est pas sans argent, ayant amassé durant son noviciat une somme de 5000 francs quêtée par lui chez les nobles familles de la région en vue de soi-disant bonnes œuvres. Il se commande à crédit un bel uniforme, parade, fait des conquêtes lucratives, joue avec frénésie, ne perd jamais, amasse une petite fortune, achète sans compter, ne paye pas, sur moyen de s'enrichir, et tout à coup disparaît. Il a eu vent que la police napolitaine témoigne à son égard de certaines curiosités qu'il préfère ne point satisfaire. À quelques jours de là, sur la plage méditerranéenne, aux environs de Civitavecchia, les pêcheurs voient émerger de l'onde un malheureux naufragé. On l'assiste, on le déshabille, on le sèche, on l'interroge. Il est le capitaine d'un vaisseau marchand français dont tout l'équipage a péri en mer. Il s'est sauvé par miracle. Il s'appelle Tholozan. Et les proches de ses vêtements et des poches de ses vêtements trempés, il sort une liasse en loques, tous les papiers du bord qu'il a pu sauver. Rôle de l'équipage, livre de route, liste des braves marins qui ont eu le malheur de ne pas survivre à leur horrible catastrophe, et on distingue assez nettement les cachets les plus officiels sur ces feuilles maculées par l'eau de mer. Tolosan s'est collé, ainsi qu'on s'en doute, et recueilli, hébergé et fêté par les autorités de Civitavecchia. Le malheureux a tout perdu dans le désastre auquel il vient d'échapper. Mais on pourvoit largement à ses besoins. Et il arrive à Rome, où sa lamentable aventure s'est déjà répandue. Le cardinal Feschi veut le voir. Le loge dans son palais. Feschi est cet archevêque de Lyon, comme nul ne le ignore, et nullement, justement, Tolosan est originaire de cette ville. C'est un devoir de conscience pour la toute-puissante éminence de protéger cet infortuné compatriote. Logé somptueusement, patronné par un cardinal, Colère a toute facilité de faire des dupes. Les premières banques de Rome lui offrent des vagues avances. Et en 2 mois, il se procure ainsi 38 000 francs qui, joints aux fonds récoltés à Naples et soigneusement mis en sûreté, composent un magot appréciable. Il est temps de regagner la France. Une chaise de poste du cardinal est mise à la disposition du naufragé. Il part, bien muni de lettres de recommandation, traverse Viterbe, Florence, Milan, et à chacune de ces étapes, grâce aux révérences, références dont il est muni, sa bourse se gonfle. Il possède 60 000 francs lorsqu'il arrive à Turin. Là, par prudence, il juge bon de plonger une fois de plus. Il se retrouve directeur de théâtre à Gênes, commandant aux frais de la municipalité qui lui accorde une large subvention, une masse de costumes pour habiller somptueusement la troupe de comédiens qu'il recrute, habits dorés de généraux, soutanes d'évêques, crachats grands cordons et croix de différentes ordres italiens, français et autres. Et c'est ainsi que, 3 semaines plus tard, tandis que les amateurs de spectacle génois attendaient avec impatience la première représentation d'une pièce annoncée à grand fracas, un vénérable prélat, qui n'était autre que Collet, arrivait à Sion et débarquait chez l'évêque du lieu, son digne confrère. Il séjourna quelque temps, célébrant les offices et recueillant des dons pour reconstitution de l'église Saint-Pierre, dont il avait entrepris de faire une merveilleuse basilique, abondamment pourvue d'une collection de bulles, de lettres patentes, de formules sacerdotales et autres, attestations émanant des plus hautes autorités de la cour papale. Il eut bientôt fait, grâce à son éloquence entraînante, d'obtenir de la piété des fidèles une somme de 100 000 francs, suffisante aux premiers travaux. L'architecte est mandé, il arrive, porteur de projets mirifiques, mais le saint promoteur de l'œuvre pieuse est introuvable. Il roule maintenant, costumé en général de brigade, chamarré de décoration, sur la route de Strasbourg, passe en Allemagne, pousse jusqu'à Vienne, revient par la Lombardie, évite Gênes et pénètre en France. Et à la frontière, changement d'avis. Ayant escroqué 100 000 francs à un banquier de Savone, le général se transforme en évêque. Il a revêtu la soutane violette, passé à son cou la croix pastorale et à son doigt l'anneau d'améthyste. Il est Monseigneur Dominique Pasqualilli, évêque de Manfredonia. Il se rend à Lyon pour voir son oncle, le cardinal archevêque, puis à Paris, où il est attendu par son illustre cousin, l'empereur Napoléon. C'est dire avec quel empressement il est accueilli par l'évêque de Nice, qui l'invite à officier pontificalement à la cathédrale, crosse en main, mitre en tête, et ordonné 33 abbés, tant prêtres que diacres ou sous-diacres. Après 3 semaines consacrées à ses pieux devoirs, Colley quitte Nice. Il traverse Fréjus en coup de vent, non sans avoir requis du commandement de la place 2 gendarmes pour escorter sa voiture. Car il a renoncé à la soutane. Il est maintenant général de division, inspecteur plénipotentiaire chargé par Sa Majesté l'Empereur et roi de l'équipement de l'armée de Catalogne. Un courrier précède sa berline. À Draguignan, il est reçu par Monsieur le Commissaire des Guerres, qui dépêche estafette sur estafette afin de faciliter la route à Son Excellence. Et Son Excellence parvient ainsi à Toulon. Le préfet maritime, les autorités civiles, navales et militaires l'attendent à l'entrée de la ville. On tire le canon en son honneur. Il descend de la préfecture, passe une revue, distribue des croix et des grades, attache à sa personne 2 officiers d'ordonnance choisis parmi les plus décoratifs, et à la prière du sous-préfet, il prend le fils de celui-ci comme secrétaire. Il voyage en 3 voitures et avec une suite de 20 personnes. Et c'est dans cet équipage important qu'il fait son entrée à Marseille. Inspection de la division, parade des troupes, vérification de toutes les caisses et l'équipement de l'armée impériale de Catalogne oblige Monsieur le Général Inspecteur à prélever une somme de 33 000 francs. Opération similaire à Nîmes, à Avignon, où, pour les mêmes suites, il encaisse 300 000 francs. Il vient ensuite à Montpellier. Le préfet le reçoit avec honneur, l'invite à dîner pour le lendemain. Et ce jour-là, à 9 heures du matin, grande revue de la garnison. À midi, le général s'assied à la table de la préfecture. À 2 heures, au moment des toasts, les gendarmes envahissent la salle à manger et Colley, arrêté. À l'émoi indescriptible de tous ses convives, est jeté en prison avec sa loyale épée, son manteau à plumes et toutes ses décorations. Il resta 1 mois au secret. On avait trouvé dans ses cantines pêle-mêle des soutanes, une mitre, une crosse d'évêque, une petite imprimerie, des sceaux de tout genre. L'affaire faisait du bruit, si grand bruit que Monsieur le préfet ne se lassait pas d'expliquer à tous les familiers de son hôtel comment il avait été pris et comment aussi tout autour dans sa place aurait été également trompé. Un soir même, comme il y avait réception à la préfecture et qu'on y parlait à l'habitude de Colley et de ses exploits, des dames manifestèrent le désir de contempler cet homme extraordinaire. Le préfet galant ne s'y refusa point. Un ordre est donné et 3 gendarmes tirent Colley de son cachot, l'amènent dans la préfecture. Et le case, en attendant que le dîner soit terminé, dans un office où les cuisiniers déposent les plats. Les gendarmes montent la garde devant l'unique porte de cette pièce, après avoir bien constaté que la fenêtre en est garnie de solides barreaux. Colley attend là le bon plaisir des dîneurs, quand tout à coup il aperçoit sur une chaise un bonnet de coton, une veste rose et un tablier de cuisine dont quelques marmitons s'est débarrassé. En un tour de main, Le voilà déguisé. Il s'empare de deux plats posés sur un dressoir, donne un vigoureux coup de pied à la porte, et avant, gare, traverse en courant le groupe des gendarmes qui s'écartent pour lui faire passage. D'un bond, il est dans l'escalier qui descend vers les cuisines, et 2 minutes plus tard, il marchait d'un bon pas, les mains dans les poches, sur la route de l'Odève. Et l'étonnante odyssée se poursuit. Moine à Montauban, médecin à Saumur, assistant d'un commissaire de police aux environs de Périgueux, chirurgien à l'armée d'Italie, capitaine au 47e de ligne, frère de la doctrine chrétienne à Toulouse, Collet fut enfin arrêté au Mans et condamné à 20 ans de travaux forcés. Et ainsi fut-il amené à se lier avec M. Appert, l'ami des galériens. Ce fut la dernière de ces belles relations. On imagine avec quelle joie déférente le beau monsieur Appert fit connaissance de ce roi du bagne et accueillit le manuscrit autographe de ses mémoires. Et s'il fallait trouver une morale à ce surprenant récit, ce serait une morale à rebours. On en devrait emprunter la formule à un politicien du siècle passé qui, après avoir longtemps vécu parmi les gens en place et parmi ceux qui convoitaient leur sort, écrivait mélancoliquement « Les hommes probes se tromperont toujours quand ils s'efforceront de calculer la marge des scélérats et les divers degrés du crime. » Ce qui est fort encourageant pour les coquins, mais très peu rassurant pour les honnêtes gens.